J'ai le plaisir de vous présenter ce soir Jean-Louis Mandel, qui est né en 1946. Il est à la fois docteur en médecine et docteur en sciences. Actuellement, il est professeur à la faculté de Strasbourg, où il dirige une équipe de recherche à l'Institut de génétique et biologie moléculaire et cellulaire. Il a fait une carrière de professeur des universités et de chercheur dans le domaine des recherches génétiques. Il consacre son activité de recherche, de toute manière il vous l'expliquera mieux que moi, à l'étude des gènes responsables des maladies génétiques, notamment des maladies neurodégénératives, et à mettre au point des outils moléculaires pour le conseil génétique et le diagnostic prénatal. Il est membre de l'Académie des sciences et de l'Institut universitaire de France, membre de nombreuses sociétés savantes et aussi de sociétés ou associations liées à la recherche sur le génome et son séquençage. Il a reçu de nombreux prix. Il a à son actif de nombreuses publications essentiellement scientifiques, hein, dans des revues spécialisées. Et il va nous parler ce soir des bases génétiques des maladies et du diagnostic génique. Je lui passe tout de suite la parole.
Voilà. Donc merci beaucoup pour l'invitation et je suis très heureux d'être ici. Et donc je vais essayer de vous parler aujourd'hui de ce qu'on a pu apprendre dans les dernières années sur un grand nombre de maladies génétiques, d'évoquer aussi certains problèmes que cela peut poser et ce que l'on peut entrevoir pour l'avenir. Alors, je crois qu'il y a eu déjà une conférence de mon collègue et ami Jean Weissenbach, qui a parlé déjà du génome humain. Donc je rappellerai simplement qu'effectivement, l'information génétique qui fait que nous sommes des êtres humains et que d'autres espèces animales, végétales, bactériennes ont leurs caractéristiques propres et au cours des générations gardent ces caractéristiques propres, eh bien cette information génétique donc est contenue dans les immenses molécules d'ADN. Et en fait, on peut considérer que le génome humain, c'est une encyclopédie en 24 volumes qui seraient les chromosomes, en 70 000 ou 100 000 rubriques, encore que j'ai entendu hier une rumeur, paraît-il qu'il y en aurait moins que ce qu'on pensait, mais enfin disons, jusqu'à présent on disait toujours probablement 70 000 gènes, qui sont donc les rubriques. Et en fait un gène, c'est une information qui code pour l'un des rouages essentiels des cellules. Ces rouages sont les protéines, donc un gène code pour une protéine, il va définir la structure et donc la fonction de cette protéine, code quelquefois d'ailleurs non seulement pour cette protéine, mais pour des variants de cette protéine. Enfin. Et cette information, donc ces rubriques, sont écrites en fait dans un alphabet à quatre lettres, A, G, C, T, les nucléotides. Et en fait, il y a dans une copie de l'encyclopédie, dans une copie du génome, il y a 3 milliards de lettres. Et en fait, nous recevons évidemment une copie de notre mère et une copie de notre père, et donc dans chaque cellule, on a en fait deux copies du génome, une copie maternelle, une copie paternelle. Alors, tout est bien, mais le problème, c'est que dans le mécanisme qui fait que pour faire une nouvelle cellule et aussi pour faire les cellules germinales qui vont nous permettre de transmettre cette information génétique à notre descendance, eh bien, de temps en temps, il peut se passer des erreurs. Et quand il y a des erreurs dans le matériel génétique, il va y avoir une erreur qui va toucher une rubrique, plus rarement plusieurs rubriques, et ça va entraîner des maladies génétiques. Et je vais surtout vous parler de ce qu'on appelle les maladies monogéniques, qui sont donc les maladies héréditaires, où une erreur dans un gène, ce qu'on appelle une mutation, va vraiment entraîner une maladie. Si vous n'avez pas d'erreur dans ce gène, vous n'aurez pas cette maladie-là. Si ce gène est défectueux, soit une copie, soit les deux copies, ça dépend, eh bien, vous aurez quasiment certainement la maladie. Alors ces maladies, on en compte plus de 4000 ou 5000, en fait on ne sait pas trop, et je dirais que même chaque semaine, on va découvrir une nouvelle maladie génétique. Alors ça paraît curieux, j'essaierai peut-être de l'expliquer. Mais en tout cas, ces maladies qui, il faut le dire, ont été pendant très longtemps complètement méconnues, même ignorées du corps médical, à part, je dirais, peut-être une dizaine, une vingtaine de maladies génétiques qu'ils connaissaient, qui étaient donc très méconnues, pour lesquelles on connaissait très peu de choses sur leurs mécanismes, eh bien, sont souvent responsables soit de handicaps qui peuvent être des handicaps physiques, par exemple les myopathies, des handicaps sensoriels qui peuvent conduire à la cécité ou à la surdité, des handicaps intellectuels, donc des retards mentaux génétiques. Et ces handicaps peuvent être aussi accompagnés, malheureusement, souvent, de mortalité précoce. Certaines maladies peuvent entraîner une mortalité dans la première année de vie, d'autres à l'âge de 10 ans, 20 ans. Et puis maintenant, on commence à connaître de plus en plus de maladies génétiques totalement déterminées par une erreur dans un gène, mais qui vont entraîner une maladie à 40, 50 ou même 65 ans. Alors, la plupart de ces maladies sont rares ou extrêmement rares. Je dirais les plus fréquentes touchent peut-être une personne sur 1000, une personne sur 2000 dans la population. D'autres sont, c'est une personne sur 10 000 ou une personne sur 100 000. Mais quand vous additionnez 4 000 ou 5 000 maladies très rares, ça finit par faire un problème de santé publique tout à fait important, d'autant plus que ces maladies, ce ne sont pas des maladies qu'on a pendant un mois, pendant 6 mois, c'est des maladies de toute une vie. Et puis en plus, c'est des maladies qui ont un impact sur la famille qui est très grand, parce que si vous avez un enfant qui a un handicap physique important ou un handicap sensoriel, eh bien, ça bouleverse complètement toute la vie de la famille autour de cet enfant. Et puis cet enfant, si la maladie ne met pas en danger sa survie, disons à court terme, eh bien, cet enfant va grandir, ça va devenir un adulte. Et là aussi, je dirais, toute la famille va vraiment, sa vie va être modelée par ce problème de la maladie. Donc, cette erreur génétique, il faut le dire, c'est souvent une seule lettre sur les 3 milliards qui est défectueuse. Alors imaginez une encyclopédie qu'on vous donnerait en 24 volumes, 3 milliards de lettres, il faut quand même dire c'est quoi ? C'est 300 000 pages comme ça. Ça c'est, ça ne se voit pas, mais enfin, c'est à peu près les 13 000 nucléotides, les 13 000 lettres qui définissent la protéine qui est déficiente dans la myopathie de Duchenne. Okay ? Eh bien, imaginez-vous que 3 milliards de lettres, c'est 300 000 pages comme ça. Et donc, imaginez-vous qu'on vous donne une encyclopédie de 300 000 pages comme ceci et qu'on vous dise il y a une erreur dans cette encyclopédie, mais une erreur majeure qui fait qu'une rubrique ne fonctionne pas. Une rubrique donnera une mauvaise information. Eh bien, imaginez-vous que, effectivement, ça ne fait que depuis pas très longtemps, depuis quelques années, qu'on est capable, effectivement, de détecter une erreur parmi les 3 milliards de lettres. Alors, si les choses ont progressé depuis, surtout à partir de 1985, c'est parce qu'on a pu commencer à identifier, isoler les gènes qui sont responsables de ces maladies, c'est-à-dire le segment d'ADN qui contient cette information, trouver les erreurs, les mutations, et puis aussi décrypter l'information, parce qu'en fait, quand je vous dis un gène code pour une protéine, en fait, l'alphabet de 4 lettres de l'ADN est traduit en alphabet à 20 lettres, puisque les protéines contiennent 20 acides aminés. Et donc, vous allez pouvoir traduire, par exemple, cette page de 14 000 lettres en une page tout aussi peu lisible, des 3500 acides aminés qui constituent la dystrophine, la protéine qui est déficiente dans la myopathie de Duchenne. Donc, à partir du moment où vous avez le gène, vous pouvez en déduire la protéine et savoir quelle est la fonction ou essayer de savoir quelle est la fonction de cette protéine. Donc, à partir des années 80, on a pu commencer à isoler des fragments d'ADN. Mais en 88, c'est-à-dire 12 ans, il n'y avait encore que 50 gènes de maladies qui avaient pu être isolés, identifiés. En mars 2000, on est probablement aux environs de 950 gènes de maladies identifiés, et ça progresse de environ 3 gènes par semaine. Alors pourquoi est-ce que ça progresse autant ? Eh bien, il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est qu'il y a une technologie, j'allais dire, qui nous est venue du ciel, non ? Qui est un peu comme l'œuf de Christophe Colomb, qu'on appelle la PCR. Et la PCR, c'est une amplification d'ADN. C'est une technique, j'allais dire toute bête, mais il fallait y penser, qui a été d'ailleurs inventée par un savant un peu fou, il a quand même eu le prix Nobel, et qui a complètement bouleversé la manière dont on peut analyser l'ADN, non seulement humain, mais n'importe qui. Et je dirais, si on peut essayer de vérifier si une jeune femme est la fille de Yves Montand ou n'est pas la fille d'Yves Montand, c'est aussi grâce à la PCR. Vous voyez, de nombreuses applications de cette PCR. Et puis, c'est aussi parce qu'à partir des années 85, on a commencé à mettre en œuvre une stratégie nouvelle pour identifier ces gènes de maladie. Au début, avant les années 85, la stratégie pour identifier un gène de maladie, c'était de partir effectivement du malade, d'essayer de voir ce qui ne fonctionnait pas chez ce malade, d'essayer de voir au niveau cellulaire vraiment comment ça ne fonctionnait pas et d'identifier la protéine déficiente. Bien. Et à partir de la protéine, on remontait au gène. Donc c'est comme ça, par exemple, qu'on a pu comprendre l'hémophilie. Effectivement, il y avait un facteur de... On savait qu'il y avait un problème de coagulation, que dans la coagulation, il y a de nombreuses protéines qui s'appellent des facteurs de coagulation, et on a identifié un de ces facteurs qui manquait dans l'hémophilie. Mais, en fait, cette méthode était assez peu efficace. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup de maladies, on n'avait en fait aucune idée du déficit. Par exemple, il y a une maladie qui est la maladie de Huntington, qui est une maladie neurodégénérative particulièrement, tragique, eh bien, où des gens qui vont parfaitement bien jusqu'à l'âge de 30 ou 40 ans, qui sont intelligents, qui pourront faire des carrières brillantes ou faire un métier très, très, tout à fait bien, à partir tout d'un coup de 30, 35 ou 40 ans, il y a des neurones dans leur cerveau qui commencent à dégénérer, comme s'il y avait une espèce de time bomb, de bombe à retardement, qui fait dégénérer une région du cerveau. Mais personne n'avait absolument aucune idée de quel mécanisme peut être défectueux de manière à entraîner, comme ça, au bout de 30 ou 40 ans, une dégénérescence d'une certaine population de neurones. Donc, la stratégie alternative, ça a été de dire, eh bien, en fait, on va partir des malades et de leurs familles, et donc, ça va impliquer toutes les familles, et à partir de ces familles, en suivant la transmission du gène de la maladie dans des familles où il y a plusieurs personnes atteintes, eh bien, on va essayer de localiser le gène de la maladie sur un chromosome, de faire une localisation de plus en plus précise, et quand on aura vraiment cerné exactement la région du chromosome où se trouve le gène de la maladie, on arrivera à l'identifier. Alors ça, c'était une stratégie sur laquelle les gens ont commencé à travailler dans les années 80. Pour vous donner des exemples, une telle stratégie pour la maladie de Huntington, ça a demandé 10 ans de travail à une dizaine d'équipes de plusieurs chercheurs chacune dans le monde entier, pour arriver au bout. Alors maintenant, ça s'est accéléré. Et pourquoi ça s'est accéléré, cette stratégie ? Parce que, finalement, cette localisation, vous essayez de trouver un endroit. Si vous essayez de trouver un endroit, c'est mieux s'il y a des cartes, c'est mieux s'il y a des routes. Eh bien, ce qu'on appelle le projet génome humain, qui a commencé à se mettre en place fin des années 80, eh bien, une des premières tâches a été de faire des cartes qui permettent de mieux localiser les gènes de maladie, et des routes qui permettent de mieux atteindre le segment d'ADN qui est concerné. Et donc ces cartes génétiques et physiques, et cartes de gènes aussi, et puis maintenant la séquence dont Jean Weissenbach vous a probablement dit qu'elle allait être terminée d'ici 5-6 mois, c'est des outils extraordinaires pour arriver à identifier les gènes de maladie. Et là, je dois dire qu'il faut signaler quand même qu'en France, et je dirais dans le monde, il y a eu quelque chose de très important qui a fait accélérer cette cartographie, c'est l'effort qui a été fait au niveau du Généton, du laboratoire Généton, créé par l'AFM, pour faire un laboratoire, je dirais, quasi industriel, pour faire ces cartes beaucoup plus rapidement. Et ceci, c'est un article extrêmement important, publié en 1996 par Jean Weissenbach, qui a été publié d'une manière très exceptionnelle par la revue scientifique la plus prestigieuse, ou l'une des trois les plus prestigieuses, qui s'appelle la revue Nature, puisque ça fait l'objet d'un numéro spécial de 150 pages de cette revue, cette carte génétique qui a énormément accéléré la recherche des gènes de maladie. Et puis aussi, il faut le dire, que cette accélération, c'est aussi parce que les cliniciens ont commencé à s'intéresser beaucoup plus à ces maladies génétiques, à recruter des familles, à s'apercevoir aussi de temps en temps que certaines maladies dont ils ne pensaient même pas qu'elles pouvaient être génétiques étaient en fait des maladies génétiques. Donc, ceci a accéléré beaucoup, et c'est pour ça que je vous dis, on en trouve à peu près 3 gènes par semaine, mais il en reste encore probablement 2000 ou 3000 à identifier, donc il y a encore beaucoup de travail. L'identification de gènes, ça a une conséquence immédiate pour les familles, et qui est importante. Elle permet un diagnostic précis. On peut enfin savoir que tel enfant qui a tel ou tel problème, c'est effectivement parce qu'il y a une maladie, un défaut génétique. Alors vous dites, ça ne change rien au problème. Pour certaines maladies, je dirais que ça change des choses. Par exemple, je m'occupe pas mal de maladies qui sont responsables de retard mental ou de troubles du comportement. Et quand il y a un retard mental ou un trouble du comportement, souvent, les familles se disent, est-ce que c'est parce qu'on ne s'en est pas bien occupé, on ne l'a pas bien éduqué? Ou quand c'est des troubles du comportement, parce que les parents, et notamment la mère, ne communiquent peut-être pas bien. Hein, vous savez, dans l'autisme, souvent, on a suggéré que si l'enfant est autiste, c'est parce qu'il y a un problème de communication dans la famille. Eh bien, d'une certaine manière, ça ne va pas changer le fait de savoir que cet enfant a une maladie génétique, ça ne va pas changer son problème de retard mental ou de trouble du comportement. Mais ça va déculpabiliser la famille, et ça, c'est souvent très important. Et puis, ils veulent savoir quand même pourquoi est-ce qu'il a un problème, cet enfant. Deuxième chose, c'est que une angoisse qui est présente quand vous avez une maladie comme ça qui est grave, qui met en danger la vie, qui entraîne des handicaps extrêmement sévères, c'est la question, est-ce qu'il y a un risque pour avoir un autre enfant, d'avoir un autre enfant atteint, ou peut-être que même des personnes plus éloignées dans la famille, des sœurs, des cousines, ou des personnes plus éloignées, et également des enfants atteints. Eh bien, à partir du moment où on a identifié l'erreur, on peut regarder qui dans la famille porte également cette erreur, et donc à risque de transmettre la maladie. Et on peut aussi rassurer les personnes qui, en fait, étaient peut-être angoissées au départ, mais dont on s'aperçoit qu'elles ne portent pas cette erreur, et on peut leur dire, écoutez, vous ou votre couple n'a pas de problème. Et puis, pour ceux qui ont effectivement un risque de récurrence, d'abord, on peut calculer ce risque de récurrence, est-ce qu'il est de 25%, de 5%, ou quelquefois simplement de 5%. Et puis, on peut en proposer, quand la maladie est suffisamment grave, un diagnostic prénatal. Alors évidemment, le diagnostic prénatal est toujours proposé, il n'est jamais imposé. C'est à la famille de décider si elle veut recourir à ce test. Et puis, il faut dire aussi, parce que souvent les gens, le diagnostic prénatal, c'est de l'eugénisme, on tue des enfants qui auraient pu naître. C'est vrai d'une certaine manière, mais aussi, il faut dire, ça permet aussi à beaucoup de familles d'avoir des enfants. Il y a beaucoup de familles avant le diagnostic prénatal qui simplement s'arrêtaient. Si elles savaient qu'il y avait un risque de récurrence de 25 ou de 50% d'avoir un enfant atteint et qu'on ne pouvait rien leur proposer, eh bien carrément, elles s'arrêtaient de faire des enfants. Et souvent même, d'autres couples dans la famille proche s'inquiétaient et s'arrêtaient peut-être aussi de faire des enfants parce qu'ils se disaient « mais je ne veux pas avoir d'autres enfants atteints d'une maladie aussi grave ». Alors, pour vous indiquer simplement, c'est peut-être pas lisible, mais enfin, c'est juste une liste que j'avais faite il y a quelque temps, dans simplement 2 numéros d'une revue scientifique, qui est celle qui, je dirais, s'intéresse beaucoup à ce problème de maladie génétique. Eh bien, dans ces seuls 2 numéros, en septembre-octobre 1999, il y avait une douzaine de gènes de maladie qui avaient été identifiés. Et simplement, je vais citer les premiers. Il y a un qui concernait une surdité. Un autre une maladie cardiaque, un trouble de conduction cardiaque qui pouvait entraîner des morts subites par des troubles du rythme cardiaque, un retard mental d'origine génétique, une maladie rhumatismale, un cancer familial, une myopathie, donc une maladie des muscles, une rétinite pigmentaire, donc une maladie qui entraîne une cécité, et des maladies neurodégénératives, dont là une maladie d'ailleurs très troublante, qui posait beaucoup de questions, qui est une maladie neurodégénérative qui ne touche que les filles. Et on se demandait vraiment quel est le gène, quel est le mécanisme qui fait qu'il y a une maladie qui ne touche que les filles. Alors, donc 900 ou 950 gènes et beaucoup de surprises. Alors, je vais citer certaines de ces surprises. Par exemple, je vous avais dit un gène, une protéine, une maladie, pour les maladies monogéniques. En fait, ce n'est pas tout à fait aussi simple. Par exemple, on s'est aperçu que selon le type de l'erreur, pour un gène donné, vous pouviez avoir deux ou même quelquefois trois maladies, parce que des erreurs différentes entraînaient des conséquences différentes. Et quelquefois des conséquences très différentes, et personne, aucun médecin, n'aurait pensé à mettre ces deux maladies dans un même sac. Alors, je donnerai un exemple, deux exemples. Il y a un gène qui s'appelle le gène RET. Quand il y a des mutations qui font que ce gène ne fonctionne plus du tout, c'est-à-dire que la protéine n'est pas produite, eh bien, ça donne une maladie qui s'appelle la maladie de Hirschsprung. Alors, c'est vrai que les maladies génétiques ont souvent des noms à coucher dehors. Ils sont souvent les noms des médecins qui les ont décrits pour la première fois, ou la description un peu technique de la maladie. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi le mégacolon congénital. C'est un déficit de l'innervation du côlon qui fait que ce côlon, ce gros intestin, ne va plus pouvoir faire son travail correctement. Et dans les formes graves de la maladie de Hirschsprung, il faut assez précocement faire une opération chirurgicale. C'est une maladie où il y a une possibilité d'opération chirurgicale pour réséquer la partie de côlon qui n'est pas innervée. Bien, donc mégacolon congénital. Mais il y a d'autres mutations plus subtiles dans ce même gène qui font qu'en fait, la protéine va être présente et va fonctionner de manière trop active. Donc, si vous voulez, la première, c'était une perte de fonction. L'autre, c'est au contraire, il y en a trop. Eh bien, ce que ça entraîne, c'est une forme de cancer familial, notamment de cancer de glandes endocrines, de cancer de la thyroïde. Donc, entre des anomalies du côlon qui n'est pas innervé et des anomalies de la thyroïde, on ne voit pas très bien quel est le rapport. En fait, s'il y a un rapport, c'est que les cellules qui innervent le côlon et les cellules qui vont former la thyroïde ont une même origine embryologique et qu'en fait, ce gène est important pour ce type de cellules. Mais si vous voulez, pour un médecin, entre un cancer familial de la thyroïde et un mégacolon congénital, il n'y avait rien à voir. Autre surprise, par exemple, la mucoviscidose. Vous avez tous entendu parler de cette maladie qui fait que, au niveau des bronches des enfants atteints, il y a un mucus très épais qui fait que ces bronches vont être infectées et peu à peu, en fait, ça va détruire les poumons et ces enfants, malheureusement, vont, à l'âge de 20 ans ou 25 ans, avoir les poumons complètement détruit et évidemment ça va les conduire à la mort. Bon. Eh bien on s'est aperçu, alors ça c'est quand il y a des mutations qui font qu'il n'y a pour ainsi dire plus d'activité d'un gène qu'on a appelé CFTR. Mais on s'est aperçu que quand il y avait des mutations qui entraînaient une baisse de l'activité mais pas complète, eh bien souvent ça pouvait entraîner une stérilité masculine très spécifique, ce qu'on appelle l'agénésie des canaux déférents. Et donc entre une stérilité masculine et une maladie qui touche les poumons, là aussi, on ne voyait pas très bien. En fait, on savait que les patients atteints de mucoviscidose étaient stériles, mais enfin, comme de toute façon, malheureusement, ils décédaient en général. Je pense que l'âge moyen va jusqu'à 30 ans, mais disons, il y a encore 10 ou 15 ans, c'était souvent à l'âge de 15 ou 20 ans qu'ils décédaient. Donc, le problème d'être stérile n'était pas vraiment le problème le plus important, évidemment. Mais là, on a des gens qui n'ont pas du tout de problème pulmonaire et qui ont simplement un problème de stérilité. Et Une des choses qui fait, c'est que maintenant, grâce à certaines techniques de procréation assistée, on peut rendre ces personnes fertiles. Et en fait, en le faisant, si on ne sait pas qu'il y a des atteintes du gène mucoviscidose qui peuvent entraîner ce problème, on peut les rendre fertiles et entraîner la naissance d'un enfant atteint d'une maladie très grave. Donc ça, c'est un gène, plusieurs maladies. Un cas qui est, je dirais presque, non plus une surprise maintenant, mais qui est presque la règle, mais qui complique beaucoup les choses pour les généticiens, c'est une maladie pour le clinicien, plusieurs gènes. Ça veut dire que différentes erreurs dans une rubrique, des erreurs dans des rubriques différentes vont entraîner le même résultat. Et je dirais, si on disait que le génome c'est une encyclopédie automobile, imaginons que vous ayez besoin d'un certain nombre de pièces et de connexions électriques pour l'allumage de la voiture. Une erreur dans l'une de ces pièces fait que de toute façon, vous n'arrivez pas à établir le contact et vous n'arrivez pas à faire démarrer votre voiture. Donc pour vous, le diagnostic, c'est la voiture, elle ne démarre pas. Mais éventuellement, pour le mécanicien, ça sera, ah oui, elle ne démarre pas à cause il y a un mauvais contact ou parce qu'il y a telle pièce qui est défectueuse ou parce que... Bon. Donc c'est un peu la même chose qui se passe pour les maladies génétiques. Et une cécité, par exemple, ce qu'on appelle une rétinite pigmentaire, eh bien, c'est probablement en fait 50 maladies différentes et ça complique beaucoup les choses pour essayer de trouver dans une famille donnée quel est le gène qui est impliqué. Alors, j'y reviendrai, mais peut-être je voudrais donner un exemple. On peut passer peut-être aux diapositives pendant un petit moment. Est-ce que j'ai besoin d'éteindre ? Non, ça va. C'est juste pour vous illustrer un petit peu pour une maladie qui est la myopathie de Duchenne, qui est la plus fréquente des myopathies. Alors, vous avez déjà vu ça. Alors, ça, c'est tout simplement donc les 14 000 nucléotides qui codent pour la protéine qui est effectivement défectueuse chez les patients. Alors, en fait, comment on a pu décoder ça ? Bien, au début, quand on a mis cette séquence dans l'ordinateur, parce qu'évidemment, on ne peut pas interpréter ça, nous, mais l'ordinateur peut regarder est-ce que, en fait, ça code pour une protéine qui ressemble à une autre protéine de fonction connue. Parce que souvent, les protéines qui ont des fonctions similaires se ressemblent du point de vue de leur séquence. Et puis, surtout, ce qu'on peut faire, c'est qu'à partir de cette séquence, on peut faire produire la protéine ou des bouts de la protéine dans une bactérie. À partir des bouts de protéines qu'on a fabriqués dans la bactérie, on peut injecter ça à des lapins et faire des anticorps. Et avec ces anticorps, essayer de regarder dans les cellules où est la protéine qui est codée par ce gène. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve ? Que cette protéine, on voit à gauche ces lignes lumineuses qui indiquent la présence de la protéine à la membrane des cellules musculaires. Donc, ça va bien, on a une maladie musculaire, une protéine qui est dans le muscle, mais qui est dans une région particulière du muscle, la membrane du muscle. Et puis, ce qu'on voit à droite, c'est que chez un patient atteint d'une forme de la myopathie de Duchenne, donc cette maladie qui fait que les muscles qui au départ sont normaux vont dégénérer progressivement et que malheureusement là aussi c'est des enfants qui vont mourir en général vers l'âge de 20 ans, eh bien à droite il n'y a plus de dystrophine. On a appelé cette protéine parce qu'elle était impliquée dans la myopathie de Duchenne qui s'appelle en anglais muscular dystrophy, on a appelé cette protéine la dystrophine. Et donc en fait pourquoi les enfants sont malades ? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas de dystrophine. Et puis, pourquoi ils n'ont pas de dystrophine ? Eh bien, dans 70% des cas, on a vu que c'est parce qu'il y a des bouts du gène, des paragraphes qui manquent. Alors ici, c'est un test très simple de PCR qui permet d'analyser à gauche 5 régions du gène, à droite 4 autres régions du gène, et vous voyez dans chaque ligne verticale un individu qui est atteint. S'il y a 5 fragments, c'est que tous les 5 sont là, mais vous voyez, de temps en temps, il manque un ou deux fragments, et à gauche, à droite, on a analysé 4 autres fragments, et on s'aperçoit que 70% des malades, il leur manque certains fragments du gène. Et quand il manque certains fragments du gène, eh bien, de deux choses une, soit le gène fonctionne moins bien, et ça donne une maladie musculaire qui progresse lentement, Mais selon les paragraphes, souvent, il ne fonctionne plus du tout. Et à ce moment-là, c'est une maladie qui progresse très sévèrement, qui font que les enfants perdent la possibilité de marcher à l'âge de 7 ans, sont en chaise roulante, et à l'âge de 15-20 ans, ils n'ont plus de muscles pour respirer, et évidemment, là, les choses vont très mal. Donc ça fait partie des surprises. Mais une autre chose, quand même, cette protéine à la membrane, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, comme un mécanicien, pour savoir qu'est-ce qu'elle fait, c'est dans quelle partie de la voiture elle est, avec quel rouage elle interagit. Eh bien, les biologistes, c'est la même chose, ils se demandent, cette protéine qui est à la membrane de la cellule musculaire, avec quelle autre protéine elle interagit ? Parce que ça permettra peut-être de savoir quelle est sa fonction. Et comme ça, au bout de plusieurs années de travail, on s'est aperçu que cette dystrophine, très grande protéine ici, reliait des protéines qui sont à l'intérieur de la fibre de la musculaire, qui sont les protéines contractiles, notamment l'actine, et la relie à la membrane. Et à la membrane, il y a toute une série d'autres protéines qui interagissent avec la dystrophine, on a appelé ça le complexe dystrophine, et qui sont en relation avec l'extérieur de la fibre musculaire. Eh bien, ceci a suggéré qu'en fait, la dystrophine, elle est utile pour peut-être permettre à la membrane musculaire de résister au stress de la contraction des fibres musculaires, parce qu'évidemment, quand on bouge, à chaque fois, les muscles se contractent, ça fait un stress à la membrane. Bien. Mais surtout, ce qui était très intéressant, c'est que, par exemple, quatre des protéines avec lesquelles interagit la dystrophine, eh bien, sont toutes les quatre impliquées, ou les gènes qui correspondent, dans d'autres formes de myopathie, qui ressemblent beaucoup à la myopathie de Duchenne, mais qui ont d'autres formes de transmission. Et à l'heure actuelle, quand on a un enfant myopathe, c'est très important de savoir est-ce que c'est la dystrophine qui est absente, parce que si c'est la dystrophine, on peut prédire une certaine transmission dans la famille et que, par exemple, la maladie n'atteindra que les garçons, et donc pour une fille, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est sarcoglycane, il y en a quatre, eh bien une déficience dans l'un de ces quatre gènes entraîne une maladie qui touche aussi bien les filles que les garçons et qui n'a pas le même mode de transmission. Et puis, on s'est aperçu, donc si vous voulez, la connaissance fonctionnelle de la dystrophine a permis en fait de connaître plusieurs autres maladies, et puis on s'est aperçu ici que d'autres protéines qui étaient ici sur cette espèce de construction étaient impliquées dans d'autres formes de myopathie congénitale, par exemple. Et pour vous donner un exemple, pour les myopathies qu'on va appeler de type Duchenne, qui sont des myopathies progressives, il y a à l'heure actuelle au moins 9 gènes différents, dont 8 sont identifiés. Le dernier, qui s'appelle la télétonine, ah tiens, ben c'est pas le bon, j'ai dû oublier de la mettre, ok, mais c'est le dernier, il y a 15 jours, est une protéine, justement, de cette fibre contractile, mais dont on ne connaît pas encore vraiment le rôle. Pour vous donner un autre exemple, et puis je vais m'arrêter pour aller plus loin, il y a une maladie qui avait l'air très spécifique pour les cliniciens. Là, ils se disaient vraiment, cette maladie-là, ça doit être un gène spécifique. On appelle ça le syndrome de Usher, une maladie très grave, puisque c'est des enfants qui naissent avec une surdité congénitale et qui vont développer, dans leur petite enfance, une cécité qui va devenir aussi très grave. Donc, vous imaginez bien un enfant qui naît sourd et qui devient, au bout de quelques années, aveugle. C'est évidemment assez catastrophique. Donc, on pensait, voilà une maladie très spécifique. Eh bien, on en est à 9 gènes différents pour ce syndrome de Usher, dont seulement 2, d'ailleurs, sont identifiés, notamment par les travaux de Christine Petit à l'Institut Pasteur. Voilà. Les surdités, ce qu'on appelle les surdités congénitales non syndromiques, c'est-à-dire celles qui ne sont pas accompagnées d'autres signes cliniques, eh bien, on estime que probablement il y a une centaine de gènes qui sont responsables de surdité, seulement une douzaine sont identifiés à l'heure actuelle. Alors, autre surprise, alors, je voulais dire une chose aussi pour ces surdités, il y a des très très beaux travaux de Christine Petit là-dessus, qui a identifié plusieurs de ces gènes, c'est qu'aussi de trouver ces gènes de surdité, ça permet de commencer à comprendre les mécanismes extrêmement complexes de l'audition. Et ça, c'était quelque chose qui était très difficile à analyser, parce que l'oreille, et notamment l'oreille interne, c'est extraordinairement compliqué. Il y a un organe qui est tout petit, qui s'appelle la cochlée. Et la cochlée, c'est un organe extrêmement compliqué, mais minuscule. Et donc, on n'arrivait pas à vraiment travailler sur le rôle de chacun des constituants de la cochlée. Eh bien, en fait, ces surdités, on s'aperçoit qu'il y a... on peut avoir des surdités parce qu'il y a telle ou telle protéine qui est présente dans telle ou telle partie de la cochlée, ce qu'on appelle la membrane tectoriale, ou ce qu'on appelle les cils vibratiles, qui est défectueuse, ou dans ce qu'on appelle des moteurs moléculaires. Et donc, on peut commencer à analyser, alors, donc ça d'un point de vue cognitif, c'est extrêmement intéressant, c'est les mécanismes de l'audition grâce à, en fait, l'identification des gènes qui font qu'on perd l'audition. Alors, autre surprise, eh bien, en principe, on se disait, quand il y a une erreur, elle est transmise au cours des générations, c'est vrai qu'elle peut survenir, ça c'est très important de se dire que ces erreurs, elles peuvent ne pas avoir été présentes depuis la nuit des temps ou depuis 10 générations. Une personne qui n'a pas d'erreur à un endroit donné, elle copie son génome pour transmettre à chacun de ses enfants, et lors de la copie, il y a une erreur qui se crée, c'est ce qu'on appelle une nouvelle mutation. Mais enfin, on se disait qu'une fois qu'une mutation est là, elle va être copiée et rester stable. Eh bien, on s'est aperçu en 91 que dans certaines maladies, il y avait des erreurs qui étaient un peu comme des bégayages du langage génétique, comme si on laissait le doigt sur la touche d'ordinateur, qui faisait que tout d'un coup, il y avait des séquences qui étaient répétées en tandem dans le génome, par exemple CAG, 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 etc. Il y a des régions où vous avez 30 répétitions de CAG, et puis tout d'un coup, elles commencent à s'allonger, et puis quand elles passent un certain seuil, ça entraîne une maladie, et puis au cours des générations, elles s'allongent de plus en plus, et plus elles s'allongent, plus la maladie devient grave. Et donc ça entraînait des maladies qui avait fait l'objet de beaucoup de discussions, parce qu'on avait l'impression que ces maladies augmentaient de sévérité au cours des générations, et ça avait fait l'objet de nombreuses discussions dans les généticiens. Il y a des généticiens qui disaient que ça n'existe pas, c'est un biais d'observation, et tout d'un coup, on trouve ces maladies, effectivement, où il y a une séquence qui, tout d'un coup, devient instable et a tendance à s'allonger au cours des générations et entraîner des maladies de plus en plus sévères. Alors, un exemple, oula, je suis déjà à 40 minutes, un exemple, c'est une maladie sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, qui s'appelle le syndrome du retard mental avec X fragile, qui est en fait la cause la plus importante, la plus fréquente de retard mental familial. On peut estimer qu'en France, il y a probablement 10 000 personnes qui ont un retard mental à cause de cette maladie, donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup de monde. Eh bien, là, il y a effectivement une séquence instable qui peut s'allonger. Alors, tant qu'elle n'est pas trop... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. Voilà. Tant qu'elle n'est pas trop longue, eh bien, les personnes qui sont dans la famille sont tout à fait normales. On ne sait pas qu'il y a une espèce de bombe à retardement là aussi. Mais à partir du moment où ces personnes qui sont, par exemple, avec un point noir, qui sont tout à fait normales, transmettent cette séquence un peu trop grande, mais que chez les enfants, ça devient encore plus grand, ce qui se fait notamment par transmission maternelle, eh bien, vous avez une expansion qui entraîne ce retard mental chez des garçons et même chez des filles. Vous voyez que vous pouvez avoir dans des familles plusieurs personnes, des sœurs, des cousines, c'est une maladie qui est lié au chromosome X, donc les femmes jouent un rôle particulièrement important dans leur transmission, mais vous allez voir que des sœurs, des cousines ou des cousines au deuxième degré peuvent transmettre la maladie, et vous avez dans des branches parfois très éloignées de la famille plusieurs enfants qui sont atteints de retard mental, ou par exemple un oncle et ses neveux ou ses nièces. L'identification de l'anomalie permet d'ailleurs maintenant le diagnostic précis, parce que du retard mental, il y a des causes très complexes, génétiques ou non génétiques, de retard mental. Mais maintenant, dans à peu près 3% des retards mentaux, on sait détecter l'anomalie, et l'important, c'est qu'à ce moment-là, on peut dire à la famille, attention, parce que c'est cette anomalie-là, il faut regarder quelles sont les autres personnes de la famille qui ont un risque de transmettre, et on peut proposer un diagnostic prénatal, y compris à des couples qui n'ont pas encore eu d'enfants atteints, s'ils le demandent. Un autre type de maladie due à ces expansions, et qui est une maladie particulièrement importante, d'abord parce qu'elle est fréquente et particulièrement tragique, c'est cette maladie de Huntington. Cette maladie, je vous dis, vers 30 ou 35 ans, c'est des gens qui vont commencer à développer un handicap physique extrêmement fort, puisqu'ils vont perdre le contrôle des mouvements, et ça veut dire qu'au bout de 3 ou 4 ans, ils vont même plus être capables de se nourrir tout seuls, parce qu'ils ne contrôlent plus, ils peuvent plus prendre une fourchette, un couteau. Et puis, une démence progressive, et cette maladie, ils vont en mourir, mais au bout de 15 ans, de dégradation physique et mentale progressive. Et évidemment, comme ça se déclenche à partir de 30 ou 5 ans, à partir de 30 ans, ces personnes ont eu le temps d'avoir des enfants. Or, leurs enfants, le risque de développer la même maladie que celle de leurs parents, c'est 50%. Et donc, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui aura vu non seulement son père ou sa mère, mais peut-être son oncle et sa grand-mère, décédé dans des conditions vraiment de dégradation progressive pour lesquelles on ne peut rien faire, d'une maladie. Eh bien, là aussi, il y a une expansion et une répétition CAG. Et on sait que à partir de 36 répétitions, on a la maladie. En dessous, on est tout à fait normal. Et plus on a de répétitions, plus la maladie va commencer tôt. En moyenne, une répétition de plus, ça veut dire que la maladie va commencer un an et demi plus tôt. Et même, il y a certains donc, enfants qui peuvent développer la maladie à l'âge de 10 ans parce qu'ils ont une répétition de, par exemple, 80 CAG. Alors, cette maladie pose un problème particulier. Enfin, c'est l'une des maladies qui pose un problème particulier parce que maintenant qu'on sait quelle est la mutation, par un test très simple, non seulement on peut effectivement confirmer le diagnostic, encore que le diagnostic, cliniquement, il était assez simple, mais on peut savoir quelles sont les personnes saines, pour le moment, qui portent la mutation et qui vont certainement développer cette maladie pour lesquelles on ne peut toutefois rien faire dans l'état actuel des choses. Eh bien, quand il y a eu cette possibilité de faire un diagnostic présymptomatique, bien les familles, les généticiens, les médecins, les neurologues se sont vraiment posé beaucoup de problèmes. Que faire de cette possibilité? Et c'est vrai qu'il y a des gens dans ces familles dont la vie va être complètement bouleversée parce qu'ils connaissent ce risque de 50% et donc ils se disent « je ne veux pas me marier parce que je ne veux pas imposer cette dégradation à ma famille ou je ne veux pas transmettre ça à mes enfants ». Et puis finalement, ils ont un risque de 50%. Peut-être qu'ils n'ont pas la mutation. Mais d'autre part, s'ils l'ont, ça n'est plus un risque de 50%, c'est 100% et on ne peut rien faire. Et donc là, on a développé, avec les associations d'ailleurs de patients aussi, une stratégie au niveau, j'allais dire, mondial, qui vraiment dit que ce test qui est simple, ça n'est pas au médecin de l'imposer, même si un médecin, on lui dit toujours que savoir, connaître, c'est bien, et bien dans ce cas-là, ça n'est pas sûr que ça soit bien, et c'est à chaque personne à risque, individuellement, de se déterminer en ayant toutes les informations, en prenant le temps de la réflexion, hein, il ne faut pas se précipiter, de savoir après plusieurs consultations, après quelquefois des mois de consultations, de savoir est-ce qu'il a envie de savoir ou pas. Et s'il n'a pas envie de savoir, c'est son problème, ça n'est ni à son conjoint, ni à son médecin, ni à ses parents de lui imposer, ni à son patron. C'est à lui. Et s'il n'a pas envie de savoir maintenant et qu'il a envie de savoir dans 3 ans, c'est aussi sa liberté. Alors, d'autres choses étonnantes. On analyse le génome humain, mais en fait, je dirais, à titre d'exercice, les généticiens avaient commencé à séquencer un génome beaucoup plus petit, qui était le génome je dois terminer là ? Non, d'accord. Qui est le génome de la levure de bière. Hein, c'est un génome qui est 200 fois plus petit que le génome humain, donc c'était 200 fois plus facile d'analyser le génome de la levure. Et puis, la levure c'est de bière, c'est un organisme qui est très connu des généticiens, qui a permis de faire beaucoup de progrès sur la compréhension de ce que c'est une cellule. Bon, enfin, vous dites, entre la levure de bière et l'homme, il y a beaucoup de différences. Eh bien, il se trouve que, par exemple, dans notre laboratoire, mais nous ne sommes pas les seuls, on avait identifié des gènes de maladie, l'un qui correspondait à une myopathie extrêmement sévère avec des enfants qui décèdent dans la première année. Et puis une autre, c'est une maladie neurodégénérative qui s'appelle l'ataxie de Friedreich. Et l'ataxie de Friedreich, c'est une maladie où il y a une dégénérescence progressive de neurones sensitifs et en plus un problème de cardiomyopathie. Donc neurones sensitifs et cœur. Quand mon collègue Michel Koenig a identifié le gène de l'ataxie de Friedreich, ça veut dire qu'on a la séquence qui ressemble à rien, ou plutôt il envoie la séquence dans l'ordinateur, est-ce que ça ressemble à quelque chose? L'ordinateur répond, ça ressemble à un gène de fonction inconnue qu'on vient de détecter parce qu'on a séquencé le génome de la levure, et donc ça ressemble à un gène de levure. Alors, vous analysez une maladie qui entraîne un problème des neurones sensitifs et de cœur, et vous savez que la levure n'a ni neurones ni cœur. Et pourtant, il y a un gène qui ressemble dans la levure. Eh bien, ça a été capital. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, la levure, c'est une cellule. Et les neurones, et dans le cœur, il y a des cellules. Et donc, on peut se dire, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui joue un rôle important dans certaines cellules et qui joue également le même rôle dans la levure. Et comme on manipule génétiquement les levures de bière très facilement, eh bien, le gène homologue de l'ataxie de Friedreich a été délété dans la levure. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Que quand on enlevait ce gène dans la levure était très malade, et notamment, il y avait des anomalies au niveau de l'usine énergétique de la levure, qui est la mitochondrie, et il y avait du fer qui s'accumulait dans la mitochondrie. Eh bien, la mitochondrie, il y en a dans toutes nos cellules, et notamment dans les neurones et dans les cellules cardiaques. Et l'équipe d'Aaron Munich à Paris a pu effectivement vérifier que finalement, dans les mitochondries de cœur de patients, il y avait effectivement des anomalies et qui correspondaient probablement à des anomalies liées à une anomalie du fer dans la mitochondrie. Donc finalement, grâce à la levure, et parce que non seulement le génome humain était analysé, mais le génome de la levure était analysé et qu'on peut faire beaucoup de choses sur la levure, eh bien grâce à la levure, on a réussi à mieux comprendre beaucoup plus rapidement le problème de l'ataxie de Friedreich. Et en plus, ça a donné à Arnold Munich une idée sur une thérapeutique possible. Et à l'heure actuelle, il y a un essai clinique, alors ça c'est un des rares cas où on est passé aussi vite de l'identification du gène à au moins une tentative de thérapeutique, et semble-t-il, au moins sur le cœur il y a des effets, peut-être pas sur les neurones malheureusement, mais en tout cas ça vous illustre que la génétique c'est un tout, qu'on arrive à comprendre des choses quelquefois par ce que l'on connaît chez une bactérie, ce que l'on connaît. Un autre exemple, c'est pour des gènes responsables de cancer du côlon. Là aussi, c'est la connaissance de la fonction des gènes qui ressemblaient beaucoup dans la levure qui ont permis de savoir qu'en fait, ces gènes jouaient un rôle dans la réparation des erreurs de l'ADN et que quand ces gènes étaient défectueux, il y avait des erreurs qui s'accumulaient et que notamment chez l'homme, eh bien, ça pouvait entraîner des cancers du côlon. Bien, alors, j'en aurais peut-être terminé avec les surprises. Je voudrais peut-être en citer une dernière qui était... Qu'on s'est aperçu, je vous l'ai dit, on a une copie du génome maternel, une copie du génome paternel, et pendant longtemps, on pensait que c'était des copies équivalentes, et que d'une certaine manière, avoir deux copies, d'abord, ça permet effectivement de recevoir quelque chose de chacun de ses parents, et puis, c'est une espèce de sécurité. Donc, s'il y a un gène défectueux sur une copie, il y a peut-être l'autre qui, au moins en partie, peut compenser. Eh bien, on s'est aperçu qu'il y a des régions du génome où la copie paternelle ne fonctionne pas, ou d'autres régions où la copie maternelle ne fonctionne pas. Et donc, il n'y a plus équivalence de la copie paternelle et maternelle. Et notamment, sur le chromosome 15, il y a une région comme ça qui est soumise à ce qu'on appelle une empreinte génomique parentale, c'est-à-dire un sceau qui indique cette région, elle vient du père, ou cette région, elle vient de la mère, et donc si elle vient du père, elle fonctionne d'une certaine manière, si elle vient de la mère, elle fonctionne d'une autre manière, et donc on a absolument besoin de la copie paternelle et de la copie maternelle. Si la copie paternelle est défectueuse, ça entraîne une maladie qui s'appelle le syndrome de Prader-Willi, qui sont des enfants qui naissent très mous, qui ont des difficultés de succion, et ils survivent, mais après, ils vont développer un retard mental modéré et une obésité. C'est des enfants qui ont une pulsion vers la nourriture. On est obligé de fermer à clé les frigidaires parce qu'ils ont une pulsion vers la nutrition, et si on n'essaye pas de les éduquer, ils deviennent vraiment très obèses, et en plus avec un retard mental. Ça, c'est quand la copie paternelle manque. Quand la copie maternelle manque, Eh bien, c'est des enfants qui ont un retard mental extrêmement sévère, mais qui ne naissent pas mou, qui ont des épilepsies, qui ont une espèce de rire, et on appelle ça le syndrome d'Angelman, c'est un retard mental extrêmement sévère, mais c'est une maladie qui ne ressemble pas du tout au syndrome de Parnier-Willi. Donc, il faut que les deux copies fonctionnent. Autre chose étonnante. Bien. Alors, je vais terminer. Alors, la thérapeutique, il y a eu une conférence sur la thérapie génique, je n'en reparlerai pas. La thérapie génique, le principe, il a l'air très simple. L'application est extraordinairement difficile. Alors, pour certaines maladies, ça commence à marcher. Un tout petit nombre de maladies particulièrement favorables. Pour d'autres, on peut se dire que probablement ça pourra marcher dans 10 ou 20 ans. Et pour d'autres, dans l'état actuel de nos connaissances, on ne voit pas très bien comment on pourrait être traité par la thérapie génique. Alors, de toute façon, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut évidemment pousser les recherches de la thérapie génique pour les maladies où on se dit que ça peut aboutir. Et puis, de toute façon, il faut aussi poursuivre la compréhension des mécanismes de maladie. Parce que quand on a le gène, on sait quelle pièce est défectueuse, quelle est la fonction de cette pièce. Ça demande beaucoup d'années de travail, mais on peut commencer à connaître les mécanismes de la maladie et pourquoi, quand cette pièce est défectueuse, il y a tel ou tel symptôme clinique. Et mieux comprendre la maladie, c'est pouvoir éventuellement, comme je l'avais dit pour l'ataxie de Friedreich, envisager peut-être d'autres formes de thérapeutiques, des thérapeutiques pharmacologiques. Et de temps en temps, quand même, trop rarement malheureusement, le fait de comprendre la maladie permet effectivement d'avoir une thérapeutique assez spécifique. Mais chaque maladie sera un cas à part. Donc, ça, c'est les thérapeutiques. Il reste beaucoup à faire, parce qu'il reste de nombreux gènes à identifier pour ces surdités, pour ces maladies responsables de retard mental, les cécités. Il faut comprendre les mécanismes de tous ces maladies. Et notamment, on sait maintenant, quand il y a un gène défectueux chez l'homme, comme la souris a à peu près les mêmes gènes, ils ne sont pas exactement identiques, mais ils ont les mêmes fonctions que nous, eh bien, quand on sait qu'une maladie est due à un déficit dans un gène chez l'homme, on peut inactiver ce gène chez la souris et créer un modèle de la maladie. Alors, le modèle, il est plus ou moins bon. Quelquefois, la souris n'est pas malade. Quelquefois, elle est beaucoup plus malade que chez l'homme et donc elle meurt in utero et ça ne sert pas à grand-chose. Mais, dans certains cas, elle a à peu près la même maladie que l'homme. Et donc, ça, c'est très utile pour étudier les mécanismes de la maladie et puis surtout pour pouvoir tester des stratégies thérapeutiques. Parce que vous savez, les essais thérapeutiques, c'est très compliqué, c'est très lourd, et puis il faut en général beaucoup de malades. Or, pour des maladies très rares, c'est vraiment pas évident du tout de trouver beaucoup de malades. Et puis en plus, vous voulez pas tester des thérapeutiques qui risquent d'être dangereuses. Donc chez la souris, vous pouvez tester des tas de choses, et puis ce qui a l'air de marcher chez la souris, ensuite, vous pouvez voir si ça marche chez l'homme. Il faut entreprendre donc ces recherches thérapeutiques, mais là aussi c'est un problème, j'allais dire presque monstrueux, parce que plusieurs milliers de maladies, quand vous voyez les efforts et les milliards de dollars qui sont dépensés sur le sida, et les dizaines de milliers de chercheurs qui travaillent dessus, c'est justifié parce qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui sont atteintes, mais dites-vous que le problème, il n'est peut-être pas plus difficile que celui du retard mental avec X fragile, ou de la myopathie du chêne, où le nombre d'équipes est évidemment beaucoup plus réduit. Faciliter les applications diagnostiques. Alors, je vous ai dit qu'on est capable de détecter effectivement une erreur. Seulement, quand le gène est grand, quand il y a beaucoup de gènes pour une même maladie, en fait, c'est très difficile, ça coûte cher. Et à l'heure actuelle, on a un gros problème, parce qu'effectivement, sur le papier, en principe, on peut le faire, mais avec les moyens des laboratoires, eh bien, il y a des maladies où il y aurait une demande des familles pour le conseil génétique, pour le diagnostic prénatal, et où malheureusement, on ne peut pas l'offrir. Alors dites à votre député qu'effectivement, ça c'est un problème auquel il faudrait un peu penser. Et puis, ces maladies qui sont très complexes, qui sont peu connues des médecins, parce qu'effectivement, quand elles sont rares, un médecin, même un spécialiste, n'en verra pas beaucoup dans sa vie, eh bien il faut favoriser absolument des centres d'excellence et de diagnostic et de prise en charge pour que les patients qui ont une maladie donnée puissent au moins une fois par an aller dans le centre où on connaît vraiment cette maladie et où on peut leur proposer une prise en charge de la meilleure possible. Et puis, je termine, si j'ai encore quelques minutes, en disant, bon, ben, ça, c'est les maladies monogéniques, elles sont rares, donc, à quelques exceptions près, elles n'intéressent pas beaucoup les industries pharmaceutiques. Mais la génétique intéresse beaucoup les industries pharmaceutiques, et même des grandes industries pharmaceutiques ont recruté des gens qui faisaient le même boulot que moi à la tête de leur effort de recherche. Et ce n'est pas pour, effectivement, travailler dans la plupart des cas sur des maladies monogéniques. Mais c'est que l'on sait, et qu'on le sait de plus en plus, que les maladies communes, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les maladies rhumatismales, les maladies psychiatriques telles que la schizophrénie, la psychose maniaco-dépressive, et il y en a beaucoup d'autres, toutes ces maladies communes ont souvent un terrain familial. Et on sait que, par exemple, quand on va parler du diabète dépendant d'insuline, le risque dans la population générale, c'est 0,4%, mais un frère ou une sœur de quelqu'un qui a un tel diabète a un risque de 6%, c'est-à-dire 15 fois plus élevé. Et en fait, c'est parce que le terrain génétique, il y a plusieurs gènes qui interagissent, plusieurs variations au niveau de plusieurs gènes qui font qu'on va être plus ou moins prédisposé à telle ou telle maladie. Donc, ces facteurs génétiques de prédisposition, on se doute qu'ils existent par ces données familiales. Encore qu'il faut bien faire attention, ce n'est pas parce que quelque chose est familial que c'est toujours génétique. Et j'ai l'habitude de dire, il y a des familles où on mange avec des baguettes, ça n'est pas parce qu'il y a un gène pour manger avec des baguettes. L'environnement, la culture, c'est aussi familial. Mais enfin, on a des techniques qui permettent, dans le familial, de discriminer entre l'environnement et les gènes. Et donc ça intéresse beaucoup les industries pharmaceutiques d'essayer d'identifier les gènes qui sont impliqués dans ces prédispositions aux maladies communes. Alors à quoi ça sert ? Alors je voudrais dire une chose fortement, ça ne sert pas en tout cas, sauf de rares exceptions, à prédire. La médecine prédictive, moi quand j'entends ça, en tout cas en parlant de génétique, ça m'énerve prodigieusement, parce que l'intérêt, c'est pas de dire à quelqu'un, vous, votre risque de cancer de la prostate, au lieu de 10%, c'est 25%, par contre, pour la psychose maniaco-dépressive, au lieu de 3%, c'est 1%, ça ne sert à rien. L'intérêt, c'est qu'en identifiant ces gènes, on va découvrir des mécanismes de ces maladies, on va savoir pourquoi ces maladies arrivent, et ces mécanismes serviront de cible pour développer des thérapeutiques. Donc l'intérêt, c'est effectivement de comprendre mieux ces maladies. Si on identifie un gène de prédisposition, ou plusieurs gènes, parce que c'est jamais un gène, hein, quand j'entends parler le gène de l'autisme, ça n'existe pas. Il y a peut-être 10 ou 15 gènes qui vont interagir pour faire que certains enfants vont développer un autisme. Eh bien, si on arrive à identifier l'un ou l'autre de ces gènes, on aura fait un progrès dans la compréhension de l'autisme et peut-être que parmi ces gènes, il y en aura un que l'on pourra un peu manipuler ou on pourra manipuler la fonction, peut-être pour trouver une thérapeutique. Et c'est la même chose pour les maladies cardiovasculaires et c'est la même chose. Alors, je vais vous donner un exemple de succès scientifique très important, c'est pour la maladie d'Alzheimer. Il a été identifié il y a quelques années, un gène qui est d'ailleurs un gène qu'on connaissait bien et que connaît pour une protéine, un transporteur du cholestérol, rien à voir avec la maladie d'Alzheimer. Et on s'est aperçu que ce gène, qui a trois formes dans la population générale, eh bien, l'une de ces formes prédispose à la maladie d'Alzheimer. Et si on est hétérozygote, c'est-à-dire si on a une copie de cette forme qu'on appelle APOE4, ça augmente le risque d'avoir une maladie d'Alzheimer par environ 2,5 à 3 fois. Si on a deux copies, le risque est augmenté de 6 à 8 fois. Et donc ça, c'est la courbe qui vous indique que si vous n'avez aucune copie de ce gène APOE4, de cette forme, parce que vous avez toujours le gène APOE, il est présent chez chacun d'entre nous, mais il peut être sous la forme 2, 3 ou 4. Si vous n'avez aucune copie, ça ne veut pas dire que vous n'avez aucun risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Ça veut dire simplement que votre risque est plus faible que si vous avez une copie. Et si vous avez deux copies, ce risque est encore plus fort. Mais vous voyez qu'à 85 ans, même si vous avez deux copies, le risque de développer une maladie d'Alzheimer est environ 30-35%. Donc, ce n'est pas prédictif. Même quelqu'un qui a deux copies, à 75 ans, son risque d'avoir une maladie d'Alzheimer, c'est que de 5%. Donc, ce n'est pas prédictif. Mais cette découverte est absolument capitale parce que personne n'avait jamais pensé qu'un transporteur du cholestérol pouvait avoir un rôle dans la maladie d'Alzheimer. Et un rôle aussi important parce que quand même, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens dont le risque est augmenté, parce que j'ai oublié de vous dire quand même, pour vous faire un peu donc je ne veux pas vous faire peur, mais il y a 20% de la population qui a une copie de ce gène APOE4 et 3% qui en ont deux copies. Donc ça concerne quand même beaucoup de gens qui, éventuellement, peuvent développer une maladie d'Alzheimer. Donc c'est un mécanisme important, et maintenant il y a beaucoup d'industries pharmaceutiques qui travaillent là-dessus pour essayer de comprendre pourquoi cette forme particulière entraîne une augmentation du risque de la maladie d'Alzheimer, et est-ce qu'on peut en fait compenser ça? Est-ce qu'on peut contrebalancer cet effet? Et donc, ça n'a aucun intérêt pour la prédiction. C'est un test qui est facile à faire en laboratoire, mais il n'a aucun intérêt, il ne faut pas le faire. Par contre, il a un énorme intérêt pour la compréhension de la maladie d'Alzheimer. Alors, il peut y avoir des exceptions. Il y a certaines gènes de prédisposition où si on les trouve, on sait qu'il y a un risque, par exemple, de faire des thromboses et qu'éventuellement, il y a des conséquences, on peut faire quelque chose, on peut faire une prévention. Alors, si on peut faire une prévention, là, il y a un intérêt à faire de la prédiction. Par exemple, il y a une forme aussi d'un gène qui s'appelle le facteur 5 Leiden, qui est assez fréquent dans la population, qui prédispose aux thromboses. Eh bien, une personne qui a un tel gène, il faut probablement faire attention au type de pilule qu'elle prend si c'est une femme, à dire de ne pas fumer parce que fumer, c'est un risque accru de thrombose, et puis à surveiller peut-être plus une grossesse. Donc là, il y a quelque chose à faire. Mais quand il n'y a rien à faire, prédire, ça n'a aucun sens. Je vous remercie.
Alors, question. Il y en a tout de suite une ici. Est-ce que vous pouvez... Ah oui, c'est qu'on s'est handicapé avec un seul micro, mais... Oui, passez, traversez-le si vous pouvez. Faites-le passer, de manière à ce qu'il passe à droite.
Sinon, criez.
Voilà. Allez-y.
Marche pas. Oui. Bonsoir, monsieur le professeur. Je voudrais demander, est-ce qu'il y a des facteurs de prédisposition pour l'autisme et quels sont les gènes impliqués, s'il vous plaît?
Alors, les généticiens pensent qu'effectivement, l'autisme est quelque chose qui est, j'allais dire, assez génétique. Alors, comment peut-on savoir si une maladie est assez génétique? En fait, le test le meilleur, il n'est pas facile à faire, c'est de regarder quelle est la concordance de la maladie chez des vrais jumeaux, puisque les vrais jumeaux partagent exactement le même environnement, ça c'est sûr, mais aussi les mêmes gènes. Et on compare la concordance pour une maladie entre des faux jumeaux qui partagent l'environnement, mais qui partagent une partie de leurs gènes, mais qui n'ont pas des gènes identiques, avec des vrais jumeaux. Et bien, quand on regarde ça pour l'autisme, on s'aperçoit que la concordance de l'autisme chez des vrais jumeaux est beaucoup plus forte, et probablement de 50-60%, alors qu'elle n'est que de, je crois, 6 ou 7% chez les faux jumeaux. Donc ça indique, d'une certaine manière, que si vous voulez, les gènes, mais c'est l'ensemble des gènes, et au moins pour 50%, c'est très grossier ce que je dis, dans l'autisme. Donc il y a une influence des gènes forte. Mais ce n'est pas un gène, et malheureusement, si vous voulez, à l'heure actuelle, on sait assez bien chercher un gène qui est responsable d'une maladie monogénique. Les gens sont en train de travailler très, très dur et de développer les techniques qui permettent de mieux trouver les gènes de prédisposition dans des maladies telles que l'autisme ou ces maladies communes. Mais pour le moment, c'est très difficile. Et donc, je dirais que pour le moment, on se doute qu'il y a des gènes de prédisposition à l'autisme, mais aucun n'a été identifié. Et je dirais même, on n'est probablement pas prêt de les identifier dans l'année qui vient. Alors, dans 3 ou 4 ans, peut-être. Mais c'est un problème extrêmement difficile.
Je souhaiterais vous poser une question sur la surdité congénitale, qui, je crois, est tout de même assez fréquente, puisqu'elle atteint un nourrisson sur 1000. Alors, chez ces nourrissons, est-ce qu'il faut faire systématiquement une étude génétique? Et deuxièmement, est-ce que cette étude génétique est prise en charge par la société?
Oui, alors, c'est pas clair. Alors, si vous voulez, la surdité congénitale sans autre signe, d'accord ? On estime qu'il y a probablement peut-être une centaine de gènes impliqués, on en connaît une douzaine. Donc déjà, même si on voulait, on n'a pas encore, on ne les a pas tous identifiés, donc on ne peut pas à tous les coups trouver l'erreur pour le moment. Mais il se trouve que dans les recherches, notamment Christine Petit a eu un rôle important, on s'est aperçu il y a 2 ans qu'il y a un gène qui s'appelle le gène de la connexine 26 qui est probablement responsable, les mutations dans ce gène, qui est assez petit, sont responsables d'à peu près 30 à 50% des surdités congénitales. C'est-à-dire que vous avez, j'allais dire, peut-être 50 ou 100 gènes qui sont responsables des autres 60 ou 70%, et ce gène-là, et ça, c'est en principe assez facile, et c'est un test qui commence à être proposé. Est-ce qu'il est pris en charge par la Sécurité sociale? C'est pas évident. Nous, on va commencer à le faire dans notre laboratoire, mais on ne fera pas payer, mais il y a un laboratoire privé qui lui fait payer. Et donc, si vous voulez, si on trouve une mutation dans ce gène, effectivement, donc, on connaît la cause. Si on ne la trouve pas, ça peut être un problème non génétique, parce qu'il y a des surdités congénitales qui peuvent être dues à des infections, à des problèmes de, je sais pas, d'infection virale au cours de la grossesse. Donc si on ne trouve pas, et que c'est un cas sporadique, on ne saura pas si c'est pas génétique, ou si c'est génétique, mais c'est un des autres gènes. Alors, ceci dit, ça pose un problème, si vous voulez. Par exemple, la surdité, c'est l'une des maladies, où, alors il y a des gens qui vont dire, est-ce que c'est une maladie? C'est en tout cas un handicap sensoriel, où le problème du diagnostic prénatal, par exemple, se pose avec acuité, et par exemple, les associations de personnes malentendantes sont en général assez violemment opposées au diagnostic prénatal pour la surdité, parce qu'elles disent, en fait, nous avons un langage, notre langage, il est différent peut-être de celui que vous utilisez, mais nous nous exprimons avec le langage des signes, et faire un diagnostic prénatal pour de la surdité, pour eux, ça équivaudrait à faire un diagnostic prénatal pour des gens qui parlent le swahili. Sous prétexte qu'on dit que le swahili, il y a peu de gens qui le parlent en France. Par contre, pour des parents bien entendants qui ont un enfant avec une surdité congénitale, c'est vrai que la demande, c'est, bon, on a cet enfant et on va l'éduquer et on va faire le mieux pour lui, mais on aimerait ne pas en avoir un deuxième. Donc ça, c'est un problème assez délicat, mais de toute façon, du point de vue de la science, on a encore beaucoup de gènes à identifier. Du point de vue de l'utilisation, beaucoup de discussions avec les personnes concernées, la population.
Monsieur le professeur, en matière de diagnostic prénatal, évidemment, il s'agit de prédictions, mais à l'heure actuelle, un certain nombre de gènes pour les maladies monogéniques sont connus. Que pensez-vous de la qualité de prédiction actuellement dans cette matière?
Ben écoutez, je dirais que quand on a identifié l'anomalie génétique qui est responsable dans la famille du problème qui a inquiété cette famille, et si le laboratoire est compétent, ce que nous espérons en général, la prédiction, est-ce que la mutation est présente ou pas, est fiable à 100%. OK ? Alors, ceci dit, il y a des maladies où la présence de la mutation ne s'accompagne pas toujours de la maladie ou d'une sévérité partielle. Je donnerai l'exemple de l'X fragile. Nous faisons le diagnostic depuis 1991 prénatal de l'X fragile. Quand nous trouvons une mutation chez un fœtus garçon, nous savons que celui-ci développera un retard mental. Nous pouvons prédire à 100%. Mais si c'est une fille, vu la caractéristique de cette maladie, si c'est une fille, ce que nous pouvons dire aux parents, c'est que cette fille a un risque de 60% de faire un retard mental. Dans 40%, elle sera dans les limites de la normale. Et en plus, même dans le retard mental, il y en aura à peu près 20% où ça sera un retard mental important, et 20 ou 30 où ça sera ce qu'on appelle un retard mental limite, léger, borderline. Donc, si vous voulez, nous sommes totalement fiables sur ce fœtus féminin à une mutation, mais nous ne sommes pas capables, et je dirais nous ne serons jamais capables dans ce cas-là, je peux le prédire, vu les caractéristiques de la maladie, de dire est-ce que cette petite fille-là aura un QI de 90 ou 100 dans les limites de la normale, ou est-ce qu'elle aura un QI de 50 et elle sera sévèrement un handicap sévère. Donc c'est là qu'est l'incertitude.
Monsieur, allez-y.
Comment estime-t-on le nombre de gènes responsables d'une maladie et quelle différence y a-t-il entre un gène localisé et identifié ?
Bon, comment estime-t-on combien de gènes dans une maladie ? C'est au fur et à mesure où on localise des gènes que l'on sait le nombre qu'il y a, si vous voulez. Il y a d'autres types d'analyses épidémiologiques qui sont un peu plus complexes. Mais disons, en général, Usher, par exemple, on ne savait pas trop au départ combien il y a de gènes. Et donc, en analysant un certain nombre de familles, on trouve un gène sur le chromosome 14. Ça, c'est ce qu'on appelle localisé. Et dans une région du chromosome 14. Et puis, on s'aperçoit que sur 10 familles, il y en a 3 qui ont effectivement, probablement par la localisation, une anomalie sur le chromosome 14, et les 7 autres n'ont pas. Donc on se dit, il doit y avoir 2 gènes de Usher, un sur le 14 et un pas sur le 14. Et puis quand on va en trouver un sur le 8, il y a encore une ou deux familles qui ont effectivement une mutation sur un gène sur le 8, mais il n'y a toujours pas toutes les familles. Donc on se dit, maintenant il y a 3. Et donc, à l'heure actuelle, Usher, ça veut dire qu'il y a 9 gènes qui ont été localisés par analyse de familles différentes. Dans une famille, on a pu dire c'est sur le 14, dans une autre famille, on a pu dire c'est sur le 7, dans une autre famille, on a pu dire c'est sur le 3. Donc on se dit, il y a au moins 9 gènes. Peut-être que si demain, on trouve une autre famille où c'est sur encore un autre chromosome, ça fera 10. Ça, c'est localisé. Et puis, quand on a réussi à tellement bien localiser le gène, mais ça demande en général beaucoup de familles, et si c'est hétérogène, c'est très difficile, et qu'on arrive à identifier le gène, c'est-à-dire identifier, c'est dire, dans cette région où il y a 150 gènes, c'est ce gène-là, et parce qu'on a trouvé la mutation, on a trouvé l'erreur. À ce moment-là, le gène est identifié.
Monsieur, on va prendre encore 3 questions par là. Allez-y.
Oui, on a identifié la protéine prion dans la levure, et je voulais savoir si actuellement il y a des travaux qui sont menés pour diagnostic, par exemple, enfin l'évaluation au niveau de la maladie Creutzfeldt-Jakob.
Oui, alors première chose, en fait, la protéine prion n'existe pas dans la levure, mais on a trouvé des levures qui se transmettaient, je dirais, des maladies par des protéines anormales qui ont des propriétés, si vous voulez, analogues à cette protéine infectieuse qu'on appelle le prion. Hein? Donc, si vous voulez, il y a des protéines dans la levure, dans certaines levures, qui ont des propriétés qui ressemblent à celles du prion, mais qui n'ont aucune ressemblance, en fait, du point de vue de leur séquence avec celle du prion. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, je n'en ai pas parlé, c'est, je dirais, là, une autre des surprises de la génétique. C'est une maladie qui peut être dans certains cas infectieuse. Ça, c'est la vache folle. C'est la contamination, par exemple, par des hormones de croissance contaminées en France. Ça a été une vraie catastrophe d'une cinquantaine d'enfants de petite taille qu'on avait traités par de l'hormone de croissance extraite d'hypophyses de cadavres humains et qui ont été contaminées par cette protéine de forme anormale. Donc, elle peut être infectieuse. Mais en fait, ça peut être aussi, cette protéine, en fait, elle est codée par un gène. Et quand il y a une erreur dans ce gène, la protéine produite peut prendre cette forme anormale et donc entraîner des maladies de Creutzfeldt-Jakob familiales. Et donc, on a un certain nombre de maladies de Creutzfeldt-Jakob familiales. Notamment, il y en avait, c'était assez fréquent chez les Juifs libyens. Et au début, on pensait que c'est peut-être parce qu'ils mangeaient du cerveau de chèvre un peu trop cru et que c'était une contamination. En fait, c'était simplement parce qu'ils avaient une mutation dans le gène du prion. Et encore plus étonnant, on s'aperçoit que entre les variations qu'il y a au niveau du gène du prion et l'infection, il y a des rapports. C'est-à-dire que les gènes et l'environnement, ça se parle. Et par exemple, selon la forme du gène de prion que l'on a, la forme normale, hein, parce qu'il y a deux variations au niveau des variants au niveau du gène prion, mais des variations totalement normales, et bien selon la variation, on s'est aperçu que les personnes qui ont été contaminés par l'hormone de croissance, les enfants, eh bien, selon la ferme, il y en a qui mettront 10 ans ou 5 ans à développer la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et d'autres qui la développent maintenant au bout de 15 ans à 20 ans après la contamination. Donc, si vous voulez, ça indique qu'il y a des rapports. Mais ceci dit, le prion de la vache folle, ça, c'est un problème, j'allais dire, infectieux. Et là, si vous voulez, la connaissance de la protéine permet effectivement maintenant de commencer à avoir des tests. Mais là, je sors de mon domaine et je crois qu'il y a d'ailleurs eu quelque chose sur la maladie neurodégénérative.
Madame.
Oui, c'est à propos des répétitions de certaines séquences, par exemple dans le cas de la chorée de Huntington. Est-ce que l'on a une idée des mécanismes qui aboutissent à ces répétitions de séquences? Et quand se produisent-ils? Dans la méiose?
Oula, ça c'est déjà compliqué. En fait, je dirais que il y a maintenant plus d'une douzaine de maladies où il y a ce type d'anomalie. Et on sait que ceci se passe pendant la réplication, que c'est des séquences qui sont déjà répétées. Il y a un certain nombre de répétitions dans la population normale, chez vous et moi. Et simplement, la présence de ces séquences répétées favorise, lors de la réplication de l'ADN, des erreurs qui font que, de temps en temps, on ajoute une ou deux copies. Et quand on ajoute une ou deux copies, ça rend la séquence un tout petit peu plus instable, et donc la probabilité, après qu'il y ait encore une ou deux copies qui s'ajoutent, devient plus grande, et donc vous avez une espèce de boule de neige. Alors au début, cette boule de neige, elle est toute petite, et au-delà d'un certain seuil, la probabilité d'erreur devient presque de 100%. Mais donc c'est des erreurs au niveau de la réplication de l'ADN. Alors ce qu'on sait, c'est que dans certains cas, et pour certaines maladies, ça a lieu surtout dans l'oogénèse. Ça, c'est le cas, par exemple, de l'X fragile. Dans le cas de la maladie de Huntington, c'est surtout dans la spermatogénèse. Et dans d'autres, c'est dans l'oogénèse, dans la spermatogénèse et dans la réplication des cellules normales, donc pendant toute la vie de l'individu. Donc, il n'y a pas de règle.
Une avant-dernière question et puis une dernière.
Je suis là. Oui. Je voulais vous dire, au départ, donc pour identifier l'anomalie d'un gène, on a fait des recherches dans certaines familles d'individus. Est-ce que ces recherches ont montré que certains êtres étaient porteurs de ces anomalies et n'étaient pas affectés par les troubles? Première question, deux questions si je peux me permettre. Et la deuxième question, est-ce que les recherches actuelles permettent d'identifier l'anomalie liée à une transmission génétique parentale, par exemple, ou liée à un environnement?
Bien. Alors, si vous voulez, selon les maladies, on sait qu'il y a des maladies où il y a ce qu'on appelle une pénétrance de 100%, c'est-à-dire, vous avez la mutation, vous avez la maladie. Il y a d'autres maladies où la pénétrance n'est pas de 100%. C'est-à-dire que si vous avez la mutation, par exemple, je parle du cancer du sein familial, hein, c'est 5% des cancers du sein, pas plus, mais enfin, c'est une maladie monogénique. Mais si vous avez la mutation, le risque de faire un cancer du sein est d'environ 70 à 80% de faire un cancer du sein avant 75 ans. Mais on ne peut pas prédire pour une personne donnée, est-ce qu'elle va en faire à 40, ou même à 30, à 60, ou pas en faire du tout. Donc, si vous voulez, ça, ce problème de pénétrance, c'est un problème qu'on comprend mal, qui est probablement le fait que l'effet du gène, en fonction de l'environnement d'une part, les traitements hormonaux, la pilule ou pas de pilule, ou l'alimentation, que sais-je, le nombre d'enfants qu'on a eu, peut faire que peut-être, ou le hasard joue un rôle important, parce que une lésion peut entraîner une autre, ou peut ne pas l'entraîner, si vous voulez. Et dans le cas des cancers, c'est ce qui arrive. Donc on peut échapper. Donc l'environnement, le terrain génétique, souvent on ne le sait pas, mais on sait quand même en général, si on a fait des études statistiques, que pour telle maladie, le fait d'avoir une mutation, ça donne un risque 100%, 90%, ou seulement 50%. Ça arrive, hein, il y a des cardiomyopathies, etc., où le risque d'être atteint sera peut-être que de 50%. Alors ça pose des problèmes en conseil génétique, parce qu'en plus, on n'est pas capable de vous dire, finalement, cet enfant, est-ce qu'il sera gravement atteint ou est-ce qu'il ne sera pas gravement atteint? Ou même vous, si on vous fait un diagnostic présymptomatique, est-ce que vous aurez un problème ou vous n'en aurez pas? En fait, on n'en sait rien. Donc, est-ce qu'il faut faire quelque chose ou il ne faut rien faire? C'est difficile à dire. Alors, est-ce qu'on peut identifier les facteurs de l'environnement? À l'heure actuelle, Il y a beaucoup de gens qui se disent, à partir du moment où il y a des gens qui ont une mutation bien déterminée, on peut peut-être essayer de trouver des facteurs d'environnement qui font que la maladie se déclenche ou ne se déclenche pas. Et un exemple, il y a une maladie monogénique qui s'appelle l'hypercholestérolémie familiale. Le gène est identifié, s'appelle le récepteur des LDL. C'est une maladie relativement fréquente qui entraîne, disons, quand on a une copie du gène défectueux, un risque assez fort d'avoir un infarctus du myocarde, une athérosclérose, à l'âge de 40 ou 50 ans. Mais on s'est aperçu que les Chinois qui ont une mutation dans ce gène, quand ils sont en Chine, en fait, ils ne font pas de crise cardiaque. Quand ils migrent et qu'ils vont aux États-Unis, ils font des crises cardiaques. Quelle est la différence ? C'est qu'en Chine, la nourriture est restreinte. Ils vont aux États-Unis plein de McDo et de Kentucky Fried Chicken. Et la mutation qui les prédispose à avoir trop de cholestérol, avec une alimentation en plus qui ajoute du cholestérol, ils vont avoir un risque très important d'avoir une maladie cardiovasculaire.
Monsieur, une question, s'il vous plaît. Et puis ensuite, une dernière en haut, parce qu'en général, les...
Bon, si je prends une maladie comme la schizophrénie, qui est, comme on le sait, très fréquente, les formes héréditaires connues sont rares. Est-ce qu'il est intéressant quand même, si on trouve chez un sujet schizophrène, dans la famille, quelqu'un qui a une forme atténuée ou qu'on croit être une forme atténuée, est-ce qu'il est intéressant de faire des études génétiques, compte tenu qu'on peut même peut-être trouver des gènes qui, eux, sont favorables envers cette maladie?
Alors, si vous voulez, la schizophrénie, c'est une des maladies où il y a énormément d'études à l'heure actuelle. On se doute qu'il y a des facteurs génétiques de prédisposition dans la schizophrénie. Les études qui ont essayé de les identifier ont été des échecs complets et retentissants jusqu'à présent. Ce qui prouve une chose, pas qu'il n'existe pas ces facteurs, c'est qu'en fait, plus il y a de facteurs de prédisposition, mais chacun ayant un rôle peut-être modeste, plus ils sont difficiles à trouver. Donc, ce qu'on peut déduire des échecs, c'est qu'il n'y a pas deux ou trois gènes majeurs pour le risque de la schizophrénie. Il y a probablement des effets complexes, ce qui fait que pour le moment, on n'a rien trouvé, mais il y a beaucoup de recherches, et donc on espère quand même qu'on va finir par trouver quelque chose. Pas pour prédire la schizophrénie, hein, mais pour mieux comprendre, avoir de meilleures thérapeutiques, peut-être mieux cibler après les thérapeutiques en se disant que telle personne qui a tel facteur de prédisposition, peut-être qu'il répondra mieux à tel ou tel médicament qu'à tel autre. Ça sera intéressant. Mais donc pour le moment, mais un des problèmes dans la recherche sur la schizophrénie, si vous voulez, quand on fait des recherches sur une famille, qu'on a un enfant myopathe, il est myopathe, il n'est pas myopathe. Ou à la limite, il y a des formes de sévérité plus ou moins fortes, mais enfin, on va faire une analyse du muscle qui va dire, oui, ça c'est une myopathie. Le problème des gens qui font des analyses sur des familles, parce qu'effectivement, pour faire ce type de recherche, on a besoin de familles où il y a, par exemple, au moins deux personnes, deux frères ou sœurs schizophrènes. Et le problème, c'est toujours, bon, il y a celle où vraiment il y a deux schizophrènes. Mais il y a celle où, comme dit, il y a un qui a effectivement une schizophrénie, et l'autre, c'est ce qu'on appelle une personnalité schizoïde ou une schizotypie ou quelqu'un qui a l'air un petit peu comme ça, renfermé, etc. Et est-ce qu'on dit qu'il est aussi, disons, dans quelque chose au sens large, plus ou moins, la schizophrénie, ou est-ce qu'en fait, il est normal? Et ça, c'est très difficile. Alors, les gens font les calculs en essayant d'avoir soit vraiment des gens qui ont tous les deux une forme sévère. Et ça, peut-être qu'on s'apercevra après, quand on aura identifié des gènes de prédisposition, qu'effectivement, ces formes, c'est peut-être effectivement des formes atténuées de schizophrénie, ou peut-être pas.
Bon, la toute dernière question, s'il
vous
plaît.
Alors, moi...
Allez-y.
Ma question, elle va être un petit peu un plaidoyer pour le monde médical.
Une question, s'il vous plaît, pas
oui,
un plaidoyer.
Le monde médical.
Non, c'est pas un débat. Mais je vais me placer du côté un peu du médical au niveau du diagnostic génique. On a eu un problème, nous, extrêmement simple. Par pression familiale, une femme est venue pour demander un diagnostic génique. Et puis, donc on a fait des tests, et il s'est avéré que elle était positive, c'était au sujet de la maladie de Huntington, mais que, en fait, l'enfant n'y était pas. Elle avait eu un premier enfant, mais donc on ne sait pas, parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on sache par la suite. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, sur le coup, elle a demandé un avortement, qui lui a été refusé, parce que le père a joué là-dessus, en disant, mais écoutez, et a joué sur la femme, enfin, sur sa femme, cet enfant était sain. Donc, aujourd'hui, c'est un homme qui souffre, c'est une femme qui souffre, c'est une équipe médicale qui souffre, parce que pour nous, c'était terrible, parce qu'on refuse quand même un avortement à une femme, parce que l'enfant n'a aucune raison, il était sain, oui. Donc il n'y avait pas de...
C'est une
question très importante. Je vais commencer par dire une chose. La maladie de Huntington... C'est probablement la maladie où, de toute façon, on ne fait jamais bien. Les problèmes sont tellement importants, tellement difficiles, que de toute façon, on peut essayer de faire moins mal, mais de toute façon, ça ne peut pas se passer bien, si vous voulez, parce qu'une maladie qui touche tellement à toute la famille que c'est toujours très difficile. Alors, il y a une chose, si vous voulez, premièrement, on a des règles pour la maladie de Huntington, on ne teste pas les enfants. Parce que, comme dit, le test prédictif, c'est quelqu'un qui doit décider pour lui-même, donc il doit décider en étant capable de comprendre ce que ça représente, et donc ce n'est pas le parent qui peut demander qu'on teste son enfant, même si je comprends que d'une certaine manière, le parent voudrait savoir que son enfant ne l'a pas. Mais si par hasard il l'a, donc on ne teste pas l'enfant. Et il y a quelquefois des pressions familiales. Alors, dans le cas que vous dites, effectivement, moi, je comprends, donc, cette femme, probablement, elle doit se dire, mais puisque je vais développer la maladie, je ne serai pas capable d'élever mon enfant, et donc, ce n'est pas la peine que j'ai un enfant. Je peux comprendre le raisonnement de cette femme. Ceci dit, l'avortement en France, il y a des lois. Avant la 12e semaine, on peut interrompre une grossesse pour... n'importe quoi, pour convenance personnelle, parce qu'on a envie de partir en vacances, etc. Donc, je dirais qu'avant la 12e semaine, alors évidemment, le problème, c'est qu'une interruption de grossesse, il y a aussi un couple. Alors, c'est le problème. Ça, la loi, je ne sais pas ce qu'elle dit, si la femme veut et l'homme, il ne veut pas. Hein, je ne suis pas... Donc, ça, de toute façon, mais ça peut être un problème dans d'autres maladies. Alors, mais en dehors de ceci, au-delà de 12 semaines, la raison ne peut être qu'une raison médicale qui met soit en danger la vie de la mère, or une grossesse pour une femme qui a une Huntington ne met pas en danger du tout sa vie, soit une maladie d'une particulière gravité pour l'enfant. Or cet enfant est normal. Donc si vous voulez, à partir de la 12e semaine, de toute façon, on ne peut pas légalement proposer une interruption de grossesse dans ce cas-là. Hein? Mais ceci dit, moi je connais... On a des règles pour Huntington, et de temps en temps, on a des cas, on fait le diagnostic de maladie de Huntington dans notre laboratoire, où bien les règles, la famille, les cas, et quelquefois, on est obligé d'accommoder, parce que, de toute façon, c'est tellement compliqué qu'il faut essayer de s'adapter au cas de chaque famille.
Bien, merci beaucoup.